Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Bien, en République démocratique du Congo, beaucoup des lotissements s'effectuent sans respect des normes environnementales. D'après les experts, cette situation est parfois à la base des problèmes décriés dans certains quartiers, tels que des chaleurs intenses ou la pollution de l'air. Alors, quelles sont les normes à respecter avant de procéder à un lotissement? Professeur Nicolas Choukou Onemba, encore une fois bonjour.
Bonjour, monsieur le
journaliste. Vous êtes environnementaliste. Dites-nous, quelles sont ces normes à respecter avant de lotir?
Pour lotir le polygone, ou quand on fait un lotissement, il faut se retenir que les lotissements est la première étape du processus de développement d'un territoire. Avant même que l'on puisse commencer à remembrer un terrain, il est important de faire un lotissement. Et le lotissement ne se fait pas seulement d'abord sur le terrain. Ça commence à se faire dans le bureau où on prend la superficie du terrain à lotir. Et on commence à programmer ce qu'on va mettre sur le terrain. Mmh. Et c'est d'abord les routes, et il faut mettre les caniveaux, les différents réseaux. Et avant de commencer un lotissement sur le terrain, sur le plan environnemental, la première chose à faire, c'est la consultation des publics. Il faut que le public soit consulté s'il faut nécessairement lotir dans cet endroit. Ça, c'est la première étape. Et la seconde étape, le lotissement doit tenir compte de trois éléments importants ci-après.
Lesquels?
D'abord, les milieux naturels. On ne peut pas lotir à n'importe quel endroit. Quand je parle du milieu naturel, j'ai fait allusion à la topographie et à la dénivellation du sol, à la nature du sol, par rapport au cours d'eau, à l'espace vert. Il faut tenir ces éléments. Et le second élément à tenir dans un lotissement, c'est le milieu bâti. On ne peut pas bâtir n'importe comment. Il faut tenir compte de l'utilisation du sol. Il faut tenir compte des équipements et des infrastructures à y mettre dans un lotissement. Quand on parle des équipements, un bon lotissement doit obéir à des voies de circulation, pas telles qu'on voit ici des phénomènes de cul-de-sac. Il faut tenir compte des égouts, alors qu'il faut tenir compte des réseaux, des systèmes d'énergie. Et le troisième élément à retenir dans les normes environnementales, c'est la sécurité de la population ou la sécurité du public. Il faut tenir compte de l'intersection de routes et de cette intersection des réseaux, la facilitation des déplacements. Il est toujours important, quand on fait un lotissement, de tenir compte des lots, des coins ou des parties à recouper ou à remembrer, et surtout que ce lot doit être orienté vers le rayonnement énergétique du soleil. Sinon, quand vous ne faites pas votre lotissement en tenant compte des rayons solaires, ça veut dire que les gens seront dans l'autre face des rayonnements solaires, ce qui n'est pas bon. Alors, il faut éviter certaines contraintes dans la construction. Il ne faut jamais lotir sur les versants des interfluves. Il ne faut jamais faire le lotissement dans les bas-fonds qu'on appelle les interfluves. Il ne faut pas
Pourquoi? Est-ce qu'il y a des dangers?
Beaucoup de dangers quand vous lotissez dans les bas-fonds ou dans les interfluves. Et quand il pleut, il y a phénomène de l'inondation. Et les gens qui sont à cet endroit où il y a les bas-fonds, ils sont souvent, quand il y a pluie surtout, que vous allez retenir que le lotissement dépend aussi des milieux éco-climatiques. Nous sommes en République démocratique du Congo, ou dans la zone intertropicale, où la précipitation est abondante. À ce moment-là, et quand il pleut, il y a phénomène d'inondation. On trouve les gens dont les chaises sont en train de nager dans la maison à cause de mauvais lotissements. Mmh. Alors, il est vraiment souhaitable, sur le plan environnemental, de faire des tracés en tenant compte des courbes de niveau, Parce que si vous ne tenez pas compte des courbes de niveau, dès qu'il y a ruissellement, ce sont des ravinements qui se passent. C'est tel que vous avez le cas de Mongafula. Oui. C'est tel que vous avez la ville de Kikwit, à Kananga.
Il y a beaucoup de ravinements.
Il y a beaucoup de ravinements qui sont en train d'érosion et des éboulements. Parce que vous savez que nous sommes surtout dans la superposition des sols, où les sols sablonnés accumule par le sol argileux ou vice-versa, et quand l'eau pénètre dans le sol, il y a un phénomène pendant la saison des pluies, il y a deux phénomènes, il y a évaporation et infiltration. Dès que le sol est imbibé d'eau, alors il y a ruissellement, et après ruissellement, on trouve les éboulements et on trouve les ravinements. C'est pourquoi on va avoir remarqué certaines maisons qui voyagent vers le fond. Alors tout ça, c'est parce qu'on ne tient pas compte.
Les maisons voyagent comment?
C'est imagé, oui, voilà. Ça veut dire qu'il y a les éboulements ou les érosions qui drainent les maisons, les cassures des maisons. Je parle de voyage, c'est pas que la maison va porter dans l'avion. Ok, c'est ça. Oui. Donc, il faut tenir compte des tracés. Oui. Il faut prévoir dans un lotissement des espaces à des fins naturelles. Ce qu'on ne prévoit pas dans notre pays.
À des fins naturelles.
Il faut des parcs où il y a la végétation pour que les gens puissent recevoir d'aération. Mmh. Il faut qu'il y ait des endroits où, pour les piétons, où les piétons peuvent passer pour aller se
tranquillement.
Oui, ce sont des éléments importants. On peut faire dans les lotissements, on prévoit seulement un lopin de terre où il y a par exemple on met des plantations de grimiers ou bien des agrumes. Alors ce sont des faits naturels importants qui rend la ville belle et qui rend la nature tout à fait, qui redonne l'atmosphère et l'air à la nature, au quartier. Il faut prévoir des réseaux de transport et il faut aussi des services publics. C'est ce que nous ne trouvons pas dans notre pays. Nous, dans notre pays, nous avons des constructions anarchiques, sans normes urbanistiques.
Mais vous savez qu'il y a même des quartiers ici, parfois certains sites, la commune de Bandalungwa, où vous trouvez des maisons, des petites ruelles, et voilà, les gens se retrouvent beaucoup dans une maison, et quand il fait chaud, c'est extraordinaire.
Oui, Bandalungwa, c'était une commune qui était jadis bien lotie, mais il se passe un problème. C'était lotie à fonction d'un certain nombre de populations. Aujourd'hui, il y a deux phénomènes qui se passent. Il y a les mouvements naturels, et il y a l'immigration. Et les gens ont fait l'exode rural pour venir dans des quartiers. Et à ce moment-là, les maisons qui étaient considérées pour habiter deux personnes, on trouve 20 personnes. Et en plus, aujourd'hui, dans la commune comme Bandalungwa, les maisons sont toujours, toutes les maisons, on trouve les clôtures en béton. Le béton, c'était
là. Il n'y a pas seulement Bandalungwa, il semble qu'il y a aussi.
Je parle de tous les quartiers, de toutes les communes. Oui. Les bétons, c'est un albédo, comme le sol, comme l'eau. Pendant le jour, quand il y a le rayonnement solaire, ça accumule de la chaleur. Oui. Et après la nuit, ça dégage de la chaleur. Et le phénomène, c'est quoi? On va trouver toute la population le long de la rue. Et en pire encore.
Et surtout ces derniers temps, il fait très chaud.
Il fait tellement chaud. En plus de la chaleur des rayons solaires, et la nuit, il y a les murs qui dégagent. En plus, les fenêtres n'ont pas de bonnes aérations. On trouve une seule fenêtre dans le salon, par exemple. Pourtant, il faut qu'il y ait des grandes fenêtres pour la circulation de l'air. Et vous trouverez aussi sur les espaces où on trouvait les espaces maraîchers à Bandalungwa ou ailleurs, on a loti. Ce sont des endroits où on ne pouvait pas lotir. Je me demande pourquoi on se donne le temps de lotir dans un endroit où il ne peut pas lotir. Pourtant, la ville s'étend où on peut lotir même vers Maluku, vers ailleurs. Et à ce moment, conséquence, c'est quoi? Même l'évapotranspiration qu'on pouvait recevoir dans la végétation, oui, on ne les reçoit pas. Qu'est-ce qu'on peut recevoir à la revanche? On reçoit la chaleur des tôles, on reçoit la chaleur de la température élevée des murs. C'est ça la conséquence.
Vous avez même parlé des espaces verts. Aujourd'hui, on n'en trouve pas assez dans les quartiers.
Ce n'est pas qu'on n'en trouve pas assez. Il n'y en a même pas. Même dans le plan de cadastral de lotissement, on ne prévoit pas des espaces verts. Et au contraire, même là où il y a des espaces verts, les gens veulent en chercher à lotir les espaces verts. Ce qui est encore utopique, ça. Ça reste à croire que les gens qui lotissent les ministères des affaires foncières, je me demande s'ils ont, et il faut pas qu'ils soient tous recyclés, parce que c'est anormal qu'on puisse pas avoir les espaces verts, même les espaces de jeu, même les terrains de foot, il n'y en a pas. Une ville, un pays comme la
République. Mais c'est parce qu'il y a eu occupation anarchique, et les gens ont occupé certains quartiers d'une manière.
Mais c'est parce que les ministères n'ont pas un schéma directeur de lotissement, parce que si un schéma directeur de lotissement existait, il devait déjà avoir un plan cadastral de lotissement des villes de la République démocratique du Congo. Et puisque ce plan n'existait pas, les gens occupent d'une façon spontanée des quartiers, d'une façon spontanée les milieux, et les lotissements, les services vont suivre.
Après,
ouais. C'est ce qui n'est pas normal.
C'est ce qui n'est pas normal.
Dans un pays tout à fait important comme le nôtre, il faut qu'on puisse changer la mentalité dans les chefs des personnes qui lotissent.
Bien. Quelles sont les normes environnementales à respecter lors d'un lotissement? Des questions, des préoccupations? N'attendez pas les dernières minutes. Appelez-nous déjà au 081-890-63-94 et faites-nous parvenir vos SMS au 081-711-5001.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explication et débat autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Quelles sont les normes environnementales à respecter lors d'un lotissement? Vous avez déjà parlé d'un certain nombre d'éléments. Est-ce qu'il y en a d'autres? Quels sont les autres éléments?
Je disais que d'une manière générale, les lots doivent tenir compte de l'orientation maximum de rayonnement énergétique du soleil. Et il faut éviter de faire des lotissements sur les fonds des vallées ou bien sur des pentes des vallées. Mais avant de faire un lotissement, il est important de faire une étude environnementale et surtout de faire l'étude du sol, parce qu'il y a certains sols où on ne peut pas faire certains lotissements, où et quand il faut lotir, il faut tenir compte de la nature des maisons qu'il faut y mettre.
Oui.
Et qu'est-ce que nous constatons dans notre pays? Que l'occupation, je disais déjà, c'est anarchique et sans normes urbanistiques. Et cette occupation anarchique engendre une certaine détérioration générale de l'environnement. Et quand je parle de la détérioration générale de l'environnement, c'est de l'effondrement aussi de la gouvernance environnementale dans le cadre de lotissement. Mmh. Il y a la destruction du système de transport en commun. Et en outre, il y a la destruction des égouts. Il est important, quand on fait le lotissement, de prévoir les caniveaux. Il faut prévoir des bons caniveaux de canalisation d'eau. Et puis, il ne faut pas arrêter la canalisation en chemin. Il faut que cette canalisation va vers un cours d'eau pour que, à la longue, qu'il n'y ait pas chute de béton et d'engendrer les érosions à l'avenir.
Oui.
Et puis, il faut chaque fois quand on fait lotissement et qu'on a fait les caniveaux, les canalisations en béton, il faut associer une végétation telle que les paspalum notatum pour permettre à ce que la partie où la canalisation a été faite, que le sol ne soit pas nu. Parce que qu'est-ce que vous remarquez si le sol est nu et qu'il pleut, on peut trouver, qu'est-ce qu'on remarque, c'est caniveaux, c'est érodé,
oui.
Et on trouve l'ensablement des caniveaux, et surtout que nous n'avons pas la culture des cantonnages, nous n'avons pas la culture d'entretien dans notre pays, et qu'est-ce que nous allons remarquer, et que les caniveaux vont se décoller, les routes vont se décoller, les maisons vont tomber, parce que vous savez, quand
disons que la végétation protège le sol.
La végétation est un élément important de l'environnement et il protège les racines de la végétation et protège les sols. Et surtout en protégeant les sols, ça solidifie et ça évite les ruissellements. Et c'est quand il y a un processus de ruissellement de l'eau, à ce moment-là qu'il y a un phénomène de l'érosion. Parce que l'érosion, c'est quoi? C'est le fait d'arracher de déplacer et de déposer. C'est ce qu'on appelle l'érosion. Mais la nature de l'érosion, ou la profondeur de l'érosion, dépend maintenant de l'arrachage, du transport et des lieux de dépôt. Mmh. Alors, ce sont des phénomènes qu'il faut en tenir compte quand on est en train de faire un lotissement dans notre pays. Oui. Et puis, il faut éviter de pouvoir construire sur les interfluves.
C'est-à-dire
interfluve, c'est l'espace...
Au bas-fond?
Non. Les bas-fonds, c'est l'étal vague.
C'est l'étal vague.
L'étal vague, c'est la partie, le fond des vallées. Oui. L'interfluve, par contre, c'est la partie supérieure qui est
sur la colline.
Entre deux versants, par exemple.
Oui.
Vous avez la partie comme l'IPN, c'est vraiment entre les versants. Mais si vous construisez sur les versants des rivières, alors sur l'interfluve, la conséquence, c'est quoi? On construit les maisons, les gens occupent sa norme urbanistique.
Oui.
Et quelle est la conséquence? C'est les ravinements. Quelle est l'autre conséquence? C'est des rigoles qui se créent. D'autres conséquences, c'est des éboulements qui arrivent. Et en conséquence,
oui.
Puisqu'il n'y a pas de normes par rapport même à la mise sur pied de certaines structures telles que les réseaux électriques, et quand il y a la pluie ou précipitation, il peut y avoir risque de que les gens puissent être électrocutés.
Oui.
Vous savez, la perte d'une personne, la vie d'une personne, ça doit nécessairement réfléchir quelqu'un,
oui.
Surtout les pays, et éviter des cas pareils.
Un auditeur en ligne, professeur, Ismaël Mumpo, il est à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, Jody.
On vous écoute.
Oui, ma première préoccupation, c'est de savoir, comme j'ai suivi l'invité avec attention, est-ce que l'étude environnementale s'effectue par l'investisseur ou les gens, les personnels du cadastre sont ceux qui vont évaluer pour donner, ou soit pour donner des comptes, pour permettre à celui qui va investir. La deuxième préoccupation était de savoir quelle est la divergence entre l'éboulement et l'érosion. Et qu'est-ce qui entre en compte pour un peu causer cet effet. Et, bah, comme préoccupation aussi, j'ai pu vivre que là où parce que je viens à peine d'arriver, j'ai vu dans un pays où je viens à peine d'arriver, c'était les gens, les personnels, des cadres, agents du cadastre ou de l'environnement qui donnent, qui approprient maintenant les terrains pour bâtir. Mais ici au Congo, c'est tout contraire. Soit c'est la population qui commence, après maintenant, c'est les gens ou les personnels du cadastre qui vont maintenant donner les conditions. C'est ça à mon humble avis.
Merci Ismaël. Professeur, qu'est-ce que vous pouvez dire?
Okay, très bien, monsieur Ismaël. L'étude environnementale, qui peut le faire? C'est celui qui fait le lotissement. Par exemple, supposons que c'est l'État qui veut lotir un quartier. C'est lui qui va demander qu'on réalise l'étude d'impact environnemental pour savoir qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui est avant le projet, qu'est-ce qui sera pendant le projet, quelles sont les conséquences qu'il y aura après le projet.
Oui.
C'est pas l'étude d'impact environnemental. C'est toi qui commandite votre projet. Tu dois commanditer dans le projet, dans des études de faisabilité ou de préfaisabilité. Il faut aussi prévoir l'étude environnementale. Et cette étude environnementale, on le fait avant et pendant et après. Et il faut tenir compte aussi des audits environnementaux et des suivis environnementaux à tout l'échelon pour sont des éléments importants pendant la construction. Et quelle différence entre éboulement et érosion? Érosion, c'est un processus. Qu'est-ce qui engendre l'érosion? Il y a plusieurs facteurs qui engendrent l'érosion. L'action anthropique peut engendrer l'érosion. Le vent peut engendrer l'érosion. On appelle l'érosion éolienne. La précipitation peut engendrer l'érosion. C'est le fait qui est, j'ai parlé de l'érosion par définition, terre à terre, c'est le fait d'arracher, transporter et déposer. Un matériel qui s'arrache, qui se transporte et qui se dépose, c'est ça le phénomène d'érosion. Quand un homme passe régulièrement sur un endroit, il fait un rigole. Alors, quand l'eau de pluie arrive, ça ne peut que suivre le chenal. Et ce chenal peut engendrer des ravinements terribles.
Oui.
Et par rapport aux éboulements, pour qu'il y ait éboulement, il y a le phénomène naturel. Il faut qu'il y ait d'abord superposition des couches. Il faut qu'il y ait les couches solides, en dessous de la couche supérieure. Alors, ça veut dire qu'il faut que, l'argile soit superposée au sol et au sable. Parce que vous comprenez que...
Les éboulements arrivent souvent quand on est devant une colline.
Mais pas seulement qu'il y a,
il y a une colline.
Ce n'est pas parce qu'il y a les phénomènes entre les éboulements et glissements de terrain. C'est des phénomènes de collines, mais ces collines, il faut qu'il y ait superposition des couches. Et la couche de sol est superposée au sable. Et quand il pleut et qu'il y a, le sol va lâcher, il y a ce qu'on appelle éboulement. Et ça peut être aussi les chutes anarchiques.
Donc on peut dire que c'est différent. Éboulement et érosion, c'est presque la même chose. Pour
l'érosion, c'est le fait de déplacer. Même quand il y a éboulement, il y a érosion. Oui. Mais pour qu'il y ait éboulement, il faut qu'il y ait superposition des couches. C'est une notion élémentaire de la géomorphologie. Ok. Bien. Par rapport à sa question, il dit ailleurs, là où il vient, c'est le ministère Loti, aujourd'hui au Congo.
Les gens prennent anarchiquement,
c'est
terrain.
C'est juste le titre de notre émission. C'est le regret, c'est le constat en fait que nous avons remarqué que chaque fois et partout il y a occupation anarchique et le lotissement ne vient qu'après. Et puis ça vient sa norme urbanistique.
Il y a même des maisons qui sont construites sur des rues sans issue. Là-bas c'est bloqué, vous allez au coin, on vous dit qu'il n'y a pas moyen de passer, il y a une maison qui se trouve là-bas.
C'est très bien, il s'est mis encore de construire, mais on construit sur les rues, on construit sur les caniveaux, on construit sur n'importe quoi, et après quand il y a la pluie, et puis quand il y a un phénomène, ils sont inondés, il y a les maisons qui percolent, et
les gens pleurent.
Les gens pleurnissent, ils oublient les actions. Toute action sur l'environnement a une conséquence, et la conséquence est proportionnelle à l'action que vous faites.
Bien, ouais. Deux autres auditeurs en ligne, Clément Mouya et Takananga. Freddy Kabamba nous appelle de Lubumbashi.
Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y, on vous attend.
Quelles sont les normes à respecter, les normes environnementales à respecter lors d'un lotissement? Professeur Nicolas Choukounemba, environnementaliste et l'invité d'Okapi Service. Clément Mouillet, à vous nous appeler depuis Mbujimayi au Kassai Oriental. Bonjour.
Bonjour, la radio.
On vous écoute, Clément.
Oui, j'aimerais un peu savoir, pour que l'invité m'affirme bien les finalités des lotissements, Et la deuxième préoccupation, les lotissements font aussi partie de l'aménagement des territoires. Alors, j'aimerais savoir qu'ils me donnent un peu les types de plans d'un aménagement du territoire.
Merci bien. Freddy Kabamba, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Jedi Daniel Kassama.
On vous écoute.
Je m'excuse, monsieur Jedi. Moi, j'ai un témoignage. Souvent ici, c'est nord de Lubumbashi, derrière l'université, il y a la quartier qu'on appelle comme Kamise, comme ça. Bon, là-bas, dans les quartiers de Kamise, là, vous trouvez, c'est le même endroit que les personnes habitent, c'est le même endroit, il y a un petit ruisseau comme ça qui passe là-bas. Dans le petit ruisseau là, vous trouvez, il y a beaucoup de sachets, beaucoup de choses comme ça. C'est ça que je demande à notre invité. Pour celle-là qui habite là-bas, quelle maladie peut être contaminée avec elle? Il faut comment pour tirer l'attention à ces maladies? Parce que si vous trouvez dans ces quartiers-là, si même une autre personne, si vous interrogez peut-être le journaliste qui est ici comme Jean Gando et tout contour, Pauline Mamouton, il va vous dire cela. Vous trouvez, ce n'est pas bien les gens qui habitent là-bas. Si vous partez là-bas, vous sentez même l'odeur qui sort là. Ce n'est pas nécessaire, je voulais savoir. Merci, monsieur.
Merci, Freddy. Un professeur Nicolas.
Ok, merci. Par rapport à notre ami Mouya, qui parle de...
La finalité, quelle est
la finalité d'un lotissement,
voilà.
C'est quoi la finalité de lotissement? Parce que pour qu'il y ait lotissement, il y a l'objectif de lotissement. Et c'est celui qui lotit qui sait pourquoi il a loti.
Peut-être c'est pour que les gens construisent des maisons d'habitation.
Pas nécessairement.
Peut-être pour qu'une entreprise vienne s'installer.
Par exemple, ça fait autre aussi le parc. C'est vous qui, la personne qui dit, moi j'ai mon lopin de terre, qu'on appelle polygone. demande qu'il faut lotir. Il amène ce qu'on appelle le programme de lotissement. Il dit à cet endroit, je veux qu'il y ait des parcelles, je veux qu'il y ait des champs, il faut prévoir. C'est vous qui prévoyez. Et les finalités d'un lotissement est fonction de la personne qui lotit son terrain. Et ça, c'est un. Mais sauf que le lotissement doit obéir à certaines normes qu'on était tenté de citer.
Il a parlé de plans d'aménagement.
Avant de parler de plans d'aménagement, il a parlé parce que le lotissement fait partie du plan d'aménagement. Effectivement, quand on lotit, on aménage. Et quel type de plan peut-on trouver? Il y a plusieurs types de plans. On trouve par exemple en République démocratique du Congo, dans certains endroits, ce qu'on appelle les plans en damier. C'est parce que les routes se coupent en angle droit. C'est pourquoi on a plusieurs endroits, vous trouverez ces routes-là, vous les avez à Bandal, vous les avez à Matete, vous les avez à Lemba. Alors, on appelle ça un plan à damier. Tout simplement, c'est parce que les routes sont coupées en angle droit. Même si au Congo, on n'utilise pas l'angle droit, on fait semblant d'utiliser ces plans. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les plans en toile d'araignée. Ce sont des plans où la ville a la forme de toiles d'araignée. Tu les retrouves en France, tu les retrouves au Japon. Alors, il y a aussi... je peux vous donner des exemples de plans, mais il y en a plusieurs.
Il y en a plusieurs. Voilà, et Freddy de Lubumbashi nous dit qu'il y a derrière l'université, il y a un quartier où les gens habitent à côté d'un ruisseau. Et ces ruisseaux, dans ces ruisseaux, il y a beaucoup de saletés qui passent par là. Il y a des mauvaises odeurs qui se dégagent. Alors il s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas de danger pour ceux qui habitent dans ces rayons-là?
Clairement, il y a les dangers. Il faut savoir, chaque fois que vous jetez des ordures, et que les ordures se décomposent, et que ça dégage les CO2, ça dégage n'importe quel méthane, et vous respirez vous inhalez les odeurs, ça veut dire vous inhalez certaines maladies. Pour savoir quel type de maladies qu'on peut rencontrer, ce qui est vrai, vous pouvez trouver des maladies des mains sales, vous pouvez trouver les maladies respiratoires, vous pouvez trouver les maladies pulmonaires.
Donc, mais environnement
il est important pour que les ministères de la santé et les ministères de l'environnement puissent réaliser une étude sérieuse et prendre les échantillons dans cette eau et les amener au laboratoire pour savoir avec exactitude quel genre de maladie que vous pouvez avoir. Mais ce n'est pas seulement derrière le campus de Lubumbashi, c'est partout dans toutes les universités. J'ai visité l'UPEN dernièrement, j'ai visité l'université de Kinshasa. Je me demande si ça risque d'être appelé l'université avec une telle saleté incommensurable que vous n'allez pas trouver dans d'autres pays, dans d'autres cieux. Même les cadres universitaires, s'ils peuvent jeter n'importe quoi, pas n'importe où, je me demande où va ce pays, où parce que les intellectuels n'arrivent même pas à appréhender que la saleté est mauvaise. Alors si les intellectuels n'arrivent pas à saisir cette notion, à forterie le commet des mortels, il faut que les choses changent par nous-mêmes.
Voilà, il faut que les choses changent. C'est Joseph depuis Ngaliema, UPN. Juste pour savoir, tout ce qui se passe aujourd'hui dans ces domaines, c'est par manque d'experts? Est-ce qu'il n'y a pas d'experts ou en la matière, ou c'est tout simplement de la mauvaise foi, professeur?
Oh, manque d'experts, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a un problème de conscience. D'abord, sur le plan foncier en République démocratique du Congo, la loi même foncière est méconnue. La loi foncière n'est pas tellement diffusée. Les gens ne connaissent pas cette loi. Ça, c'est un. Deux, il faut comprendre aussi s'il y a un problème de volonté politique. Il y a le problème du gouvernement. Moi, je suis ministre des Affaires foncières. On ne peut pas lotir un quartier sans que moi, je puisse donner mon avis. Mais quand on a quelqu'un...
Un chef coutumier
ou n'importe qui distribue, vous voyez, vous ne dites rien. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que est-ce que c'est manque des experts? Il n'y a pas de pays où il y a les experts qu'en République démocratique du Congo. Il y a plusieurs universitaires, sauf qu'ils ne sont pas seulement utilisés. On peut utiliser celui qui n'est pas expert pour faire un travail. Oui. La République démocratique du Congo a des experts capables à relever les défis. Il faut que l'on puisse les utiliser. C'est pas un problème d'experts. C'est quelque part un problème de la conscience.
Il y a plusieurs experts. Voilà. Bien, on va s'arrêter là, professeur.
Okay.
Nous vous disons merci. Je rappelle que vous êtes Nicolas, professeur Nicolas Soukou Onemba, environnementaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Ah,
et
merci
à la prochaine.
Merci beaucoup.